Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
Sibeth Ndiagne a été nommée secrétaire d'État et porte-parole du gouvernement français le 31 mars 2019 lors de la cérémonie de passation de pouvoir organisée le lendemain. Elle a remercié le Sénégal, sa famille et ses amis. Je veux les remercier ici très profondément du soutien qu'ils m'ont apporté. C'est aussi au Sénégal, le pays de ma naissance, que j'ai puisé le courage de gravir cette marche en toute humilité, a-t-elle déclaré. C'est dans mon enfance que j'ai été chercher ces paroles souvent prononcées par nos parents pour nous aider, mes sœurs et moi, à briser les plafonds de verre. Là où tu es à ta place. A poursuivi l'ancienne conseillère presse de l'Élysée, native de Dakar, naturalisée en 2016. Au Sénégal, son père Farane Ndiaye est connu en tant qu'ancien numéro 2 du PDS et sa mère Mireille Ndiaye, décédée en 2015, a été présidente du Conseil constitutionnel de 2002 à 2010. En langue diola, Sibeth signifie « qui a gagné beaucoup de combats ». Les Slovaques ont élu une femme à la présidence le 30 mars 2019. L'avocate libérale Susana Kaputova, militante anticorruption, qui a obtenu 58,40% des voix face à Maros Šefčovič du parti au pouvoir. Son score, a-t-elle estimé, montre qu'il est possible de ne pas céder au populisme. Madame Kaputova, qui a participé à des manifestations, s'était engagée lors de la campagne électorale à lutter pour une justice indépendante. Ses promesses électorales incluaient notamment la protection de l'environnement, le soutien aux personnes âgées et une réforme de la justice qui priverait les procureurs et la police de toute influence politique. Dans un article intitulé « La femme africaine, bête de somme ou superwoman » dans la revue des éditions Sciences Humaines, l'économiste Sylvie Brunel écrivait en 2005, je cite « L'absence de moyens de portage mécanique ou animaux fait effectivement d'elle des bêtes de somme. Nulle autre personne ne pourrait porter comme elles le font à la fois des fagots de bois, des canaris d'eau ou des paniers empilés sur la tête en même temps qu'un enfant dans le dos et parfois un autre dans le ventre. La charge dépasse fréquemment les 30 kilos et elle est assumée sur des distances parfois très longues, 5 à 10 kilomètres, avec au pied de simples sandales, voire pieds nus sur de mauvais chemins. Les femmes africaines sont de véritables Hercules et les premiers agents économiques des campagnes, car ne se limitant pas à leurs tâches domestiques, elles s'occupent des cultures vivrières tout en ne disposant d'aucun droit sur les terres qu'elles cultivent, ce qui rend leur situation précaire et empêche leur accès aux intrants.
Parole de femme.
Le monde au féminin, c'est une fenêtre ouverte sur la condition des femmes qui prennent en charge leur famille grâce à leurs activités génératrices de revenus. Aussi faible soit-il, je vous propose d'aller à la rencontre de Ndela Pui, une vendeuse de légumes de 40 ans qui fait vivre son mari à la retraite et ses 5 enfants grâce à son petit commerce au Sénégal. Sedina Abagay lui a tendu le micro à Dakar.
Teint noir, silhouette imposante, Ndéla Puy est une vendeuse de légumes. Elle exerce cette activité depuis 6 ans. Avec un mari à la retraite et 5 enfants à nourrir, cette dame a fait des sacrifices au profit de sa famille.
Je me suis installée en ville depuis plus de 6 ans. Je vends une variété de légumes. Mes débuts ont été difficiles car la municipalité nous interdisait de vendre des légumes à côté du trottoir. Aujourd'hui, les choses se sont calmées. Je rends grâce à Dieu.
Du haut de ses 40 ans, Ndéla s'approvisionne au marché Castor de Dakar. Elle nous confie que par moment, il est très compliqué pour elle de tirer son épingle du jeu.
Le kilo de choux, je l'achète à 300 et je le revends à 500 francs. Le kilo de carottes, je l'achète à 1000 francs et je le revends à 1200. Idem pour le citron. Pour chaque article, je cherche un bénéfice de 200 francs. Les grandes surfaces nous rendent la vie difficile car ils ont investi notre dernier d'activité. Les gens préfèrent plus s'approvisionner là-bas.
Partie de rien, Ndéla assure plusieurs charges parmi lesquelles la dépense quotidienne de sa maison.
J'ai toujours refusé de tendre la main. Voilà pourquoi je me bats bec et ongles pour subvenir aux besoins de ma famille et épauler mon époux.
Son credo, vivre au jour le jour, vivre le moment présent, raison pour laquelle elle ne tient pas de comptabilité quotidienne.
C'est très compliqué de faire une comptabilité régulière. J'investis tous les jours 10 000 francs et il m'arrive de finir ma journée avec 6 000 francs. C'est un petit commerce, mais je rêve d'agrandir mon capital et bien sûr mes activités.
Chez Ndéla, la vente de légumes est une histoire de famille et c'est avec fierté qu'elle nous la raconte.
Ma mère était vendeuse de légumes, mes frères aussi. Ils n'avaient pas de complexe à le faire. Aujourd'hui, tous les biens qu'ils ont, c'est grâce à la vente de légumes et c'est une fierté.
Voilà. Toutes les femmes sont des reines, mais cela ne devrait pas empêcher aux dames de travailler afin de gagner leur vie dignement. C'est cela la conviction de Ndéla Puy. À Dakar, Serina Abagui pour VOA Afrique.
Notre correspondant a donné la parole à une autre Sénégalaise, Fatou Diallo, veuve d'une soixantaine d'années qui a débuté le commerce avec très peu de moyens, mais qui est parvenue, non sans effort et sacrifice, à bâtir sa maison à Pikine grâce à la vente de fruits saisonniers.
Sa silhouette frêle, sa petite taille et son visage ridé laissent transparaître son âge assez avancé. Fatou doute de son âge exact, mais elle confie que ça tourne autour de 60 ans. Vendeuse de fruits au marché Sandaga, cette native de Pikine, un département populaire de Dakar, exerce cette activité depuis des années.
Ah, ça fait plus de 10 ans que je vends des fruits depuis le règne du président Abdou Diouf. Je vends des fruits saisonniers, des mades, des melons, pastèques, oranges, entre autres. Je rends grâce à Dieu et je rends hommage à mes parents.
Veuve depuis 10 ans, Fatou assure toute seule les charges familiales. Décrite comme une personne sensible, courageuse, intuitive et battante, Fatou Diallo sort du lit tous les jours à 4 heures du matin pour gagner sa vie dignement.
Je m'approvisionne au marché syndicat à Pikine. Je me réveille tous les jours à 4 heures du matin. À 6 heures, je prends le taxi, le plan d'eau, parfois même le bus pour venir ici à Sandaga.
Son abnégation a porté ses fruits car c'est grâce à la vente de fruits que Mère Fatou, comme l'appelle affectueusement ses petits-enfants, a pu acheter une maison à Pikine.
J'ai bâti ma maison grâce à cette activité. J'assure les charges familiales, je paie l'eau, l'électricité. Et si j'ai aussi à faire tout cela, c'est parce que je n'ai jamais voulu baisser les bras. Je n'aime pas tendre les mains.
Quand tout va bien, on peut compter sur les autres, mais quand tout va mal, on ne peut compter que sur sa famille. C'est pourquoi Fatou Diallo affirme que sa progéniture et sa force est son plus grand soutien.
Je bénéficie aussi du soutien de ma famille. J'ai des enfants formidables. Nous nous aidons mutuellement.
Dynamique et joviale, voici le message que Fatou adresse aux femmes du monde. Elle leur demande de croire en elle, car la plus grande force d'une femme est sa détermination et sa capacité à surmonter les obstacles de la vie. À Dakar, Seydina Bagui pour VOA Afrique.
Le gouvernement ivoirien a adopté le 27 mars 2019 des projets de loi visant à renforcer les droits de la femme, souvent lésés dans la succession. Conformément au principe de non-discrimination et de l'égalité homme-femme, il y aura le renforcement de l'égalité entre l'homme et la femme dans le mariage, avait déclaré le porte-parole du gouvernement Sidi Thiémoko Touré. Le conjoint survivant bénéficie désormais d'une part non négligeable des biens de son conjoint décédé, une disposition susceptible de mettre fin à des pratiques traditionnelles défavorables à la femme. Les arrangements qui font souvent du mal à une femme qui, après avoir bâti un foyer avec son mari, se retrouve expulsée de sa maison, ne sont plus tolérés, a souligné M. Touré.
Si je ne pouvais.
VOA Afrique a publié une série de vidéos portraits sur la jeunesse en République démocratique du Congo en période de campagne électorale. Faisons la connaissance de Sarah Lundu Musanga, étudiante à Kinshasa, qui a perdu ses parents à l'âge de 17 ans et souhaite créer une entreprise de produits locaux bio.
Être congolais, pour moi, veut dire avoir l'esprit fort et dynamique. Voilà, en bref, je sais ce que je peux dire. Je raconte beaucoup de problèmes au quotidien, entre autres les problèmes de l'eau dans mon quartier, les problèmes de route, outre ça, les problèmes de transport. Très souvent, lorsque je quitte la maison pour aller à l'université, en tout cas, le transport n'est pas assez facile. On n'a pas assez de moyens et il y a aussi des problèmes de haussement de transport. Les transports haussent à tout moment, donc ça ne nous facilite pas d'aller à l'université facilement. Ce que je n'aime pas dans l'état de notre pays, c'est les sociales. Quand je parle de ça, je prends un exemple. Chaque matin quand je sors, des fois je vois des enfants de 6 ans, 7 ans qui vendent les légumes sur la tête. Et moi, personnellement, ça me fait très mal. Pourquoi je me dis... Ces enfants devaient être à l'école normalement. Mais vu le développement de notre pays, vu le social de notre pays, ça ne permet pas à ces enfants d'aller à l'école. Pour manger, ils doivent vendre d'abord. Et cela me choque. Dis-moi un peu, c'est quel parent qui voudra laisser son fils ou sa fille à cet âge-là de vendre? C'est par manque d'argent. Donc, un parent qui n'est pas bien payé, il a 6 enfants, il est payé à 50 000 francs, 100 000 francs, c'est compliqué. Alors, tout ça, ce sont des problèmes qu'il faudra que le gouvernement puisse régler ça dans ces pays. Si j'étais présidente dans ces pays, la première décision que j'allais prendre, c'est de faire étudier les enfants de maternelle à 6e primaire gratuitement. Ce que j'attends de notre prochain leader, c'est qu'il nous donne le meilleur de lui, qu'il nous amène à l'émergence parce qu'il n'y a pas, qu'il nous aide à étudier convenablement parce que ce sont des problèmes qu'on rencontre beaucoup dans les universités, qu'il aide nos enfants, nos petits qui sont encore en primaire de mieux étudier. C'est ce que moi j'entends de lui en tout cas. Parce que un pays sans développement, c'est rien du tout. Alors, moi, j'aimerais que le développement ne soit pas quelque chose comme un slogan, mais que ce soit la réalité, que ce soit une vérité, que ce soit dans la pratique. Bon, une année après les élections, je pense que la RDC va changer beaucoup de choses. Donc, je pense qu'avec un bon leader, on aura déjà des fonctionnaires qui seront mieux payés. Il y aura les institutions qui seront bien organisées, bien sûr. Et je pense que la RDC va émerger avec un bon leader une année après les élections.
C'était l'épisode 5 de la série vidéo Nous Congolais, dont vous pouvez retrouver l'intégralité sur voaafrique.com.
et si la jeunesse pouvait.
Commencer les cours à 12h30 pour finir à 18h, c'est une expérience en cours au Togo, notamment au lycée de Ezra Naoué, en périphérie de Lomé, pour faire face aux effectifs pléthoriques dans les salles de classe. Les responsables de cet établissement scolaire ont ainsi opté pour un système à double flux. Kaylo Sun nous emmène à la rencontre de ces élèves qui se partagent la journée en deux sessions distinctes.
Il est 11h08, c'est sous un soleil accablant à 28 degrés Celsius que Akoui, élève en classe de seconde au lycée de Ezra Naoué, quitte sa maison pour l'école. L'adolescente de 15 ans, qui habite à environ 2 km de son école, débute ses cours à 12h30.
Le premier jour de rentrée, le professeur était venu, il nous a fait proclamer que pour cette année, les secondes et les quatrièmes viendront le soir, tandis que les autres classes et les classes des amis viendront le matin. C'est un peu difficile. Des fois, je rentre à 19h, des fois à 19h30. Et puis, apprendre le cours le soir, c'est un peu possible, quoi.
Depuis quelques années, le lycée de Ezra Naoué a recours à cette pratique dénommée le double flux pour pouvoir accueillir tous les élèves qui le sollicitent. Pour un établissement de 21 classes avec un effectif d'environ 3000 élèves, le système de double flux s'est imposé, argumente Moukaïla Kwegouni, censeur du lycée de Ezra Naoué.
Nous avons un problème d'effectif. La demande est très forte, mais malheureusement, les infrastructures ne sont pas suffisantes pour les accueillir. Dans cette situation, nous créons un système de double flux, de telle sorte que certains enfants viennent le matin et d'autres l'après-midi. Le premier groupe vient le matin, à 7 heures, les cours commencent et ils finissent à midi. Et le deuxième groupe commence à 12h30 pour finir à 17h30 ou 18h au plus tard.
Les élèves des classes de 4e et de seconde contraints de rester à la maison dans la matinée essaient au mieux de planifier leur emploi du temps personnel.
C'est devenu une habitude. Ça ne me gêne pas de venir le soir. Parce que le matin, ça donne du temps, tu peux apprendre.
Moi, c'est le matin que je revise les cours.
Tu es obligé de te réveiller, d'apprendre et de faire tes travaux avant d'y revenir. C'est pas assez facile d'étudier, mais tu es obligé de le faire.
Moi, ça m'avantage parce que le matin, quand je me réveille, je fais mes travaux domestiques et j'apprends. Alors que quand je venais le matin, ça prend trop de temps. On ne peut pas faire les révisions.
Avant, on venait à l'école le matin et le soir. Mais maintenant, on vient à l'école les après-midi. Et ça a changé beaucoup mon programme. J'arrive à faire bien mes travaux de métier et apprendre bien les cours avant de venir à l'école les après-midi.
Débuter les cours à une heure de repos et de grande chaleur, doublé à un effectif pléthorique de plus de 100 élèves par classe, devient un peu éprouvant pour ces apprenants.
Dans notre classe, nous sommes à peu près 120. Les professeurs, ils nous expliquent, mais ce sont les élèves. Ils parlent trop. Si tu as pris une place derrière, tu vois là, il faut savoir que non. Cette année-là, si tu ne fais pas attention, tu es obligé de redoubler la classe. D'autres professeurs, ils ne reprennent pas des choses deux fois. Une fois, puis c'est terminé.
On est 111 dans la classe. On doit se battre pour avoir des moyens. Parce que quand on est beaucoup comme ça, les professeurs n'arrivent pas à bien entretenir les élèves et on doit beaucoup travailler pour réussir à la fin de l'année.
La situation n'est pas appelée à perdurer. Déjà, de nouveaux bâtiments sortent de terre. Ils vont accueillir bientôt les élèves du flux des après-midi pour que ces derniers puissent avoir des heures normales de cours. Kaylo Sun, Lomé, VOA Afrique.
Entre parenthèses.
La journaliste et historienne italienne Lucetta Scarafia, fondatrice de la revue mensuelle du Vatican Femmes, Église, Monde, a bouclé le mois de la femme 2019 en présentant sa démission, comme les 10 autres femmes constituant la rédaction essentiellement féminine. Dans une lettre adressée au pape François rendue publique le 26 mars, elle affirme avoir été poussée à cette décision par la nouvelle direction de l'Osservatore Romano, auquel le mensuel est rattaché. Madame Scarafi l'accuse d'avoir instauré un climat de méfiance et de délégitimation progressive dont le but était le retour à l'ancienne et aride coutume du choix venu d'en haut sous le contrôle direct d'hommes, de femmes jugées fiables. Elle avait notamment dénoncé les abus de prêtres sur des sœurs dans le monde. Le mensuel avait vu le jour en 2012 sous Benoît XVI. À ce propos, voici une analyse du professeur Jean-Pierre Carriguet, joint en Pennsylvanie par Éric Manirakiza.
Le mensuel féminin était le seul magazine féminin de Rome et faisait partie de l'Osservatore Romano, qui est un organe officiel du Saint-Siège. Et rappelez-vous aussi que ce mensuel avait été créé du temps de Benoît XVI, qui est plutôt dans le sens de conservateur, mais aussi un intellectuel critique et averti. C'est vrai, la revue jouissait d'une certaine liberté. Dans ce sens-là, on peut parler de déception aussi. Donc, de ce côté-là, oui, on peut parler de, enfin, un coup dur dans une certaine mesure. Je dirais dans une certaine mesure. Non, parce que de toute façon, qu'est-ce qu'on pouvait aussi attendre d'une institution qui est masculine par son essence.
Mais une démission en bloc, c'est quand même inédit.
Oui, oui, mais l'Église est en train de passer une certaine transition. Je parlerai peut-être d'une crise de sens. Et quand il y a une crise, évidemment, il y a une confrontation, il y a plusieurs points de vue. Et dans ce sens-là, oui, il y a un problème. Mais cette crise, mais qui est liée beaucoup plus, me semble-t-il, au renouvellement de l'Église. Bien que certaines des réformes viennent de François Ier, du moins entretenues ou supportées par François Ier, mais il y a au sein de l'Église une certaine ère qui est conservatrice. Et donc face à ça, je crois que la crise qui se passe, pour moi, me semble est positive, dans la mesure où elle annonce une certaine transition. Donc oui, il y a des missions en bloc, mais après, c'est aussi un symbole, c'est aussi un signe. Le fait même de démissionner, ça montre qu'il y a une certaine prise de parole par rapport à l'Église comme institution, mais ça montre aussi que cette parole des femmes, d'où qu'elles viennent, que ce soit à l'intérieur du Vatican, que ce soit à l'extérieur, peut être aussi entendue. Donc ça signifie que la prise de parole a commencé et elle ne peut pas s'arrêter avec certaines positions du Vatican.
Et quel pourrait être l'impact de l'arrêt de cette publication?
Je crois que le vent qui souffle pour le moment au sein de l'Église, les changements qui vont se porter sur avec François Ier, mais aussi avec le peuple de Dieu, qui prend de plus en plus conscience de certaines attitudes de l'Église et surtout du côté masculin de l'Église avec tous les abus qu'il y a. Et je crois que ce vent ne sera pas arrêté. Donc, la démission participe à cette révolution. Et alors, la parole viendra de n'importe où.
C'était une analyse du professeur Jean-Pierre Carriguet de Dickinson College en Pennsylvanie. Chères auditrices, chers auditeurs, le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel, juste après les nouvelles. Sur notre site internet, visitez aussi voaafrique.com/LMF pour consulter nos articles, vidéos, interviews et les autres éditions déjà parues. C'était Nathalie Barge avec vous, on reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.